Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Messages à caractère informatique. Aujourd'hui, pour commenter les news de la semaine, j'ai un super beau gang autour de moi. Un gang qui commence dans une mare avec Canard, Alexandre Duval. Bonjour Alexandre.
Bonjour Quentin.
Qui es-tu? Que fais-tu?
Je suis Canard sur Twitter et je travaille chez Clever. Je m'occupe des logs, des add-ons et de tous les systèmes un peu distribués. Voilà.
Nous avons également, ne barbotant pas dans l'eau, mais barbotant très profond sous l'océan avec les autres crabes, Geoffroy Coupry, dit Géal. Bonjour Geoffroy.
Bien le bonsoir.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Geoffroy?
Alors moi, je m'occupe des projets louches chez Clever, donc les proxys en Rust, les functions as a service, les choses comme ça.
Et last but not least, rivalisant en poids de cheveux et de barbe avec moi, nous avons Laurent Deguin. Bonjour Laurent.
Bonjour. Je tiens à dire que j'ai plus de cheveux que toi actuellement.
Je pense que là, je suis largement battu. Donc, le concept de podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que globalement, on a des channels de veille techno chez Clever Cloud. Et en fait, on poste des liens toute la semaine dedans. Et l'idée, c'est qu'on vous fait partager les liens qui nous ont intéressés cette semaine et on vous donne notre commentaire. Et globalement, les intervenants changeront toutes les semaines puisque ce sont des gens de chez Clever ou éventuellement des amis de chez Clever. Et tout de suite, sans transition, on commence par la grande nouvelle de la semaine. Couchbase a levé 105 millions en pleine pandémie pour poursuivre son développement. Laurent, un commentaire?
Grande nouvelle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'on a zappé ma présentation, moi, je bosse chez Clever, mais avant, je travaillais chez Couchbase. Donc, je peux vous parler un peu de mes petits camarades. Moi, j'étais chez Couchbase quand ils ont fait leur dernière levée de fonds. C'était en 2016 et c'était un down round. Un down round, c'est quand on lève moins que la fois d'avant, en gros.
Enfin, quand on lève à une moins grosse valorisation que la fois d'avant.
En fait, et c'est ça, considéré comme un échec, globalement.
Et ça, pour vous la faire courte, quand on fait de l'investissement aux États-Unis, quand tu fais un down round, en fait, ce qui se passe, c'est que s'applique en général tout un tas de clauses que tu n'avais pas envie qu'elles s'appliquent. Genre, les investisseurs du tour précédent ont le droit de revaloriser leur part à la valorisation du tour actuel. Autrement dit, des gens qui étaient rentrés à 20% vont d'un seul coup se mettre à détenir 60% de la boîte du jour au lendemain. Et ça entraîne plein de mécanismes comme ça qui fait qu'en clair, l'équipe de management et les fondateurs se font démonter la tronche. Je pense qu'on peut dire en langage légal.
On peut considérer ça puisque d'ailleurs, le CEO fondateur, il est parti en fait. C'est un nouveau CEO qui est arrivé en 2017 et qui a donc levé…
Je crois que c'est un tour sur lequel ils ont lâché 70% de leur equity quand même.
Ça, c'est s'ils ont 70% de lâché au global sur les 234 millions. Je ne sais plus combien ils en avaient en tout, mais ça commence à faire. On est sur une série F ou G.
Ah oui, c'est pas là. Ça fait un certain nombre quand même là.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est que là, ils ont un peu pété le score par rapport à la fois d'avant. En temps de pandémie. Donc, big up, c'est cool. Parce que l'article explique, c'est qu'ils ont été tout à fait transparents et honnêtes avec les VC. Ils n'ont pas fait des plans magiques de « on va se retrouver à quadrupler nos chiffres de vente simplement en embauchant deux commerciaux en plus ». Ils ont été, a priori, ce qui est dans l'article, plus transparents. Et je trouve ça assez cool et assez cohérent avec le positionnement de Couchbase qui a toujours été plutôt orienté plein de gros contrats dans les 500 et le CAC 40 et toutes ces choses-là, plutôt que de courir après plein de tout petits contrats tout pétés, comme on choisit d'autres vendors NoSQL qu'on ne nommera pas tout de suite. Donc, moi, ça me semble cohérent. C'est un petit teasing pour après. Moi, ça me semble cohérent. Je trouve ça intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Ils ont annoncé lancer leur propre cloud. Donc, c'était les seuls qui n'étaient pas encore rentrés dans le cloud. Leur stratégie cloud, c'était on tourne chez tout le monde. Là, ça y est, il y a du cloud manager Couchbase qui arrive. Moi, après, côté tech, j'attends de voir où ils vont aller parce que c'est assez calme en fait par rapport à il y a quelques années où ils annonçaient l'analytics, ils annonçaient du mobile, ils annonçaient plein de choses cool. Pour moi, c'est toujours une base de données super complète et du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec tout cet argent et j'espère qu'ils vont rajouter, comme tout le monde, peut-être du edge, du serverless, des choses comme ça, une exécution proche de la donnée et puis évidemment le cloud. Ben, on verra.
Moi, je trouve ça bien. Ça veut dire que le marché du gros NoSQL est en train de se calmer là où tu vois, il y a eu beaucoup de levées indécentes sur des prévisions de marché qui n'existaient pas et du coup, des boîtes en grande difficulté. Peut-être que c'est des levées de raison en fait qui arrivent enfin dans ce marché-là où tu vois ça va pas te donner des boîtes qui avaient prévu de faire un business qui est pas là, en fait.
Mais c'est ça, ils étaient quasiment profitables il y a quelques années. Et du coup, je pense qu'ils sont vraiment sur cette optique-là, sur l'optique qu'on va faire une boîte qui fonctionne et pas une boîte qui crame le blé des VC, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont réussi à lever autant en étant transparent avec eux.
Et par contre, ça va changer la politique un peu discutable sur la version communautaire ou... Est-ce que Couchbase va redevenir une boîte open source ou ils n'en parlent pas du tout pour l'instant?
Je ne sais pas, ils n'en parlent pas beaucoup. C'est vrai que Couchbase, ils ont toujours été assez transparents par rapport aux autres. Il n'y a pas de licence ni figue ni raisin pour rester gentil sur les licences mi-open source, mi-en fait non. Ils ont toujours une version enterprise, proprio, donc c'est un modèle entre guillemets open core, une version open source. En sachant que tu as une version communautaire, tu peux télécharger le binaire, il y a des trucs qui se font moins que dans la version enterprise, mais si tu compiles tout seul comme un grand, c'est la Couchbase Developer Edition, ça fait des années que ça existe, tu as globalement le même truc que la version enterprise sans la partie proprio, logique. Donc moi j'ai toujours trouvé assez cool et transparent là-dessus, plus que des Redis, des Mongo, des Elastic et ce genre de personnes, enfin de vendors. Est-ce que du coup ils vont annoncer dans la foulée un changement de licence? Est-ce qu'ils vont annoncer un Couchbase mono instance qui marche? Moi j'aimerais bien. C'est rigolo, dans l'article ils se mettent en tant qu'Oracle rival. Les mecs ont compris ouais. Que on a essayé d'aller péter les parts du marché Mongo. Ça a marché, voilà, ça a semi-marché. Peut-être dû au fait qu'effectivement ils sont pas sur le même niveau de contractualisation à chaque fois. Et du coup ils se sont dit c'est pas grave, depuis qu'on a le SQL, on va aller taper le marché d'Oracle.
Je vois un commentaire sur Couchbase, peut-être. C'est plus très employé chez Clever, Couchbase. Geoffroy, Alexandre
La dernière fois que j'y ai touché, 2013-14
Il n'y avait pas de SQL encore. Il n'y avait pas de mobile. Il n'y avait pas tous ces trucs cool. C'était plus même cache, quoi, en stéroïdes.
Bon, ça c'était bien bougé. Hein.
Ouais. C'était la partie market du podcast. Moi, je vous propose maintenant, on passe à la suite. La suite, c'est du Rust. Il y a eu de grosses annonces du côté de Quiche chez Cloudflare. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Quiche, c'est quoi, Gérald?
On dit Wish, Lorraine.
Alors, Quiche, c'est en fait une implémentation du protocole Quick qui a servi de base au protocole HTTP3.
Donc, Quick, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remix de TCP. Enfin, ça vient se coller à côté de TCP, mais basé plutôt sur des concepts UDP. Donc, c'est une sorte de TCP rapide au-dessus d'UDP.
C'est ça. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup la main sur les protocoles de congestion, les algorithmes qui étaient dans les stacks réseau des OS. Donc, côté client chez utilisateur. Bah, si ça ne correspond pas à la bande passante, au trafic qu'ils vont avoir, ils ne pourront rien y faire. Alors que s'ils font tout sur UDP eux-mêmes, avec une implém qui a leurs algos, ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces. Donc, Quick a ça, a des fonctionnalités super intéressantes aussi au niveau de la crypto, la compression, etc. Et ça sert de base au développement d'HTTP3. Donc, ils ont reçu des résultats assez intéressants. Et bon, forcément, chez Cloudflare, sur tout ce qui est accélération du trafic, ils sont vite là-dessus. Et ils ont pas mal de gens qui bossent sur du Rust là-bas. Donc, j'ai regardé un petit peu leur implém. Elle est assez intéressante, assez intéressante à suivre.
Et là, ce qu'ils annoncent, c'est le support de Cubic et de HiStart. Rapidement, c'est quoi Cubic et HiStart?
Alors, Cubic, c'est un algo de contrôle de congestion. En fait, un problème qu'on peut avoir dans TCP, c'est que quand on envoie des paquets de routeur en routeur, les routeurs, eux, ils ont des buffers. C'est-à-dire ils reçoivent des paquets, ils les mettent dans un endroit le temps de trouver où les envoyer. Et il y a un moment, ces buffers peuvent se retrouver pleins. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir de la congestion, on va avoir des paquets qui se perdent ou qui ralentissent. Et TCP, le protocole, a des algorithmes pour savoir quand renvoyer un paquet, est-ce qu'on renvoie des paquets plus ou moins gros, etc. Et il y a eu énormément de travail sur ces algos-là parce que ça va avoir un impact énorme sur la bande passante. Par exemple, il y a le côté sur HiStart. Ouais.
Ouais, en fait, ce que tu expliques, c'est que globalement, on va récupérer ces protocoles, enfin, ces mécanismes-là, on va les réintégrer au protocole émetteur, de façon à être capable d'avoir un plus fin contrôle dessus en fonction de ce qu'on a envoyé. Là où avant, on laissait le réseau se débrouiller tout seul en se disant bah, du réseau et du réseau, ils vont se débrouiller, c'est ça ?
En fait, avant, ça dépendait de l'OS sur lequel tu tournes. C'est-à-dire, si tu utilisais un Windows XP, bah, tu avais les algos qui étaient dans Windows XP. Si tu vas faire tourner ton Chrome avec Quick sur Windows XP, je ne sais même pas si ça tourne encore, mais si tu arrives à le faire tourner, avec Quick, tu auras directement ces algos de congestion qui sont beaucoup plus efficaces.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réinternaliser des couches bas réseau directement dans les softs clients parce qu'on se dit que comme ça, on va pouvoir tweaker plus facilement ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est le sens de l'arrivée de ces supports-là dans Quiche. Quiche qui est donc le support HTTP 2 et HTTP 3, je suppose, de Cloudflare.
Quiche, c'est Quick. C'est principalement ah, oui. L'algorithme. Oui. Mais c'est ah, attends, aussi juste... HTTP 3.
C'est HTTP, HTTP 2 slash Quick et ensuite c'est… Non, HTTP 2 slash Speedy, c'est ça. Et ensuite, c'était Quick.
C'est ça.
Non, en fait, Quick, il est tout en dessous. Et en fait, tu peux mettre ce que tu veux au-dessus. Tu as eu du HTTP 2 au-dessus de Quick et tu as du HTTP 3 au-dessus de Quick. Et en fait, quand tu fais du HTTP 3, tu es censé être au-dessus de Quick. C'est bien ça que j'ai compris. Mais en fait, du coup, ils ont une autre implème d'HTTP 2 et d'HTTP 3 qui ne s'appelle pas Quiche, autre chose. Je ne sais plus ce que ça s'appelle. Et tout ça en Rust.
Yep.
Des commentaires sur cette implémentation, sur du… Globalement, HTTP 3, j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite qu'HTTP 2. Quoi. Je ne suis même pas sûr qu'on fasse une vraie implém dans la vie de tous les jours du développeur lambda d'HTTP 2. J'ai l'impression qu'on va aller très, très vite à HTTP 3. Je
pense. Y a un problème qui est celui de l'UDP, en fait. C'est-à-dire qu'à peu près sur tout réseau type entreprise, ils aiment bien le port TCP80 et le port TCP443 et puis c'est tout. Et donc, l'UDP, tu n'en entends même pas parler. Donc, pour des sites consumer où les gens normaux vont s'y connecter avec leur téléphone ou leur laptop chez eux, oui. Dans les grosses boîtes, tu ne le verras pas tout de suite. Mais de toute façon, tu ne verras pas beaucoup de TCP2 non plus. Hein,
ce n'est pas grave, dans les grosses boîtes, on ne va plus dans le réseau des grosses boîtes. On bosse tous en confinement depuis chez nous.
En VPN.
Ok. Question suivante. Lien suivant. Il y a eu des avancées du côté de chez Kafka sur comment ils veulent virer ZooKeeper. Donc c'est une espèce de vieux rêve chez les gens de Kafka de se dire on va virer ZooKeeper. J'ai jamais compris le délire. Peut-être Laurent, tu peux expliquer c'est quoi les avancées de ce truc-là. Là, c'est une tweet storm.
Disons que dès que tu fais un tweet un peu touchy, ça part en tweet storm, mais ça n'a pas non plus. C'est pas une surprise. Ça faisait longtemps qu'il avait annoncé sur un ticket vouloir se débarrasser de ZooKeeper pour. Globalement, il jette ZooKeeper sous le bus d'un point de vue archi en disant si Kafka ne peut pas faire tout ce que peut faire des trucs comme Pulsar. C'est parce qu'il relie sur ZooKeeper. Alors déjà, tu dis, mais c'est une connerie en fait, parce que Pulsar, c'est aussi ZooKeeper. Quid, qui est un truc que j'ai entendu de la bouche d'un free sales de chez Confluent. Je pense que la question, c'était plus BookKeeper, mais ça, c'est peut-être plus Canard qui va nous expliquer un peu les imbrications et les liens, et les équivalences surtout entre les deux projets, je pense. Parce que les gars de Confluent me disaient, si on continue à utiliser ZooKeeper, on ne pourra pas faire de virtual topic, on ne pourra pas scale aussi bien ou comme des oufs. Donc, il va falloir qu'on passe à autre chose. Autre chose étant, pour l'instant, un truc raftesque, mais on n'en sait pas beaucoup. Enfin, je n'ai pas suivi beaucoup plus en détail pour le moment.
Ben pour l'instant, il n'y a pas de code. Hein.
C'est des prévisions. Je ne sais pas, Canard, tu as regardé un peu plus en détail peut-être.
Bah, y a des tentatives avec ETC. Ça essaie de pousser dans son coin, mais bon, c'est plus lourd que ce
c'est peur. Peut-être pour ça qu'ils ont décidé de réécrire un truc. Hein.
On met une SQLite en Mononode auquel on parle en HTTP sur un serveur. Et puis...
ça... oui, faisons ça.
Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas dans ce délire, c'est. Moi, j'ai l'impression que ZK. En fait, ZK, pour moi, c'est un mal-aimé pour de mauvaises raisons.
Parce que, je comprends pas pourquoi il le jette sous le bus.
ZK, si tu prends toutes les presses, par exemple, des gens de Jepsen, ils te disent c'est quand même le seul truc qu'on n'a pas cassé, ZooKeeper. Donc, ça tient quand même super bien la route. Là où Consul ou ETCD fait marrer absolument tout le monde. Enfin, Déjà, le protocole du truc ne m'a, enfin, mais c'est d'HTTP, donc tu peux pas être, tu peux pas faire tu peux pas faire de stabilité en termes de sûreté que t'es un node soit linké. Et ensuite, ça marche bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a une mauvaise presse d'il y a 10 ans, les toutes premières versions ZK, et les gens qui ont essayé non pas de s'en servir comme lock distribué, mais ceux qui ont essayé de s'en servir comme base de données.
Non, mais c'est ça. C'est ça. Les gens, ils pensent que c'était une base de données, alors que c'est pas. L'idée, c'est de mettre de la métadonnée plus que de la donnée. Et c'est là où Pulsar a trouvé en fait ce chemin. Et du coup, toute la métadonnée dans Pulsar, elle est vraiment dans ZK. Et ça rend ZK plus léger. Et du coup, après, tu as toute la donnée qui est dans Bookkeeper, en fait.
Tu es en train de dire hashtag les gens, là.
Hashtag les gens.
Ouais, en plus, c'est une nouvelle version qui est sortie il y a quoi, il y a quelques mois là, de ZK, qui est hyper excitante en termes de fonctionnalité. Et qui en même temps est en test depuis forever, parce que la communauté ZK, ils sont pas spécialement dans la gaudriole. C'est pas des gens qui lancent des versions WASM, on verra plus tard et on fera une 0.1 quelque part. Tu vois. Et du coup, je comprends pas très bien le désamour de cette techno-là, parce qu'en vrai, elle marche très bien. Et moi, je me souviens que j'avais été très choqué du Confluence Summit où ils avaient annoncé le remove de ZK. Et là, tu avais toute la salle qui s'était mise à hurler en applaudissant. Et j'avais l'impression qu'en fait, au lieu d'aller enfoncer ZK un peu planqué dans l'architecture, mais à faire son boulot de synchronisation, ils essayent de supprimer un problème. Et en fait, pour moi, ils sont en train de jeter tout le sable et toute la terre sur un truc. Pour moi, c'est très marketing, en fait, cette histoire-là. Et très sincèrement, quand on dit bientôt, il n'y aura plus de ZK dans Kafka, quand tu vois là où ils en sont rendus pour l'instant à se poser des questions préliminaires de leur adaptation draft, ouais, écoutez, on s'en reparle dans 6 versions du Covid, quoi.
Define bientôt, c'est ça. Ils ont juste sacrifié ZK. C'est ce que je t'ai dit. Donc, je t'ai sous le bus parce que pour l'instant, ils n'ont rien d'autre. Et tu ne veux pas réécrire. Globalement, quand il y a un système distribué comme Kafka et tu dis on va dumper Zookeeper, on va réécrire ça, t'imagines la quantité d'implications que ça a sur l'architecture, sur le produit en lui-même. Enfin, ça ne ressemble plus à Kafka, ce sera un autre truc. Ils sont juste en train de te dire que ça va prendre plus longtemps, quoi.
Ouais, c'est pas juste une dépendance comme ça.
Ouais.
C'est clairement le cœur.
Vous, en lock distribué, il y a quoi comme techno qui vous inspire confiance aujourd'hui?
En ZK.
Il y a Fondation, je pense que c'est pas mal. Je l'ai pas encore. Enfin, j'ai lu la suite de tests, mais je pense que ce que fait Fondation sur la synchronisation, c'est pas si mal. Mais sinon, je.
Ouais, enfin, tu vois, tous les gens qui t'explique que la big data, globalement, la big data, ça tend sur la JVM et c'est du ZK. Quoi. Ah. Mais d'autres solutions de big data qui fonctionnent bien, qui ne sont pas basées sur ZK.
Si, t'as Cassandra qui ne sont pas basées sur ZK.
Big data, Hadoop, Cassandra. Moi, j'étais dans l'éléphant, je n'étais pas dans le SQL, j'étais dans le gros data.
Ah, dans le gros data, si, t'as les gens de chez Mapper. Mais non, mais c'est du ZK, je dis de la merde.
Non, ça doit être du ZK. Bref. Aussi, hein. Bah, c'est ça.
Ouais, les gens de chez Confluent nous font, à mon avis, du gros. Je trouve que c'est du marketing un peu honteux. Je trouve que Kafka est une tellement belle plateforme. Je trouve que c'est une technologie qui est tellement extraordinaire. Enfin, vraiment, je le pense sincèrement. J'adore cette techno. Je trouve que c'est mesquin de faire son marketing. En pushback dégueulasse sur cette techno qui par ailleurs leur rend bien des services. Je trouve que c'est mesquin et pas très cool. Voilà.
Ouais, il faut imaginer quand même, il y a probablement des gens en interne là-bas qui ont poussé que c'est bon, on y va, on va virer ZK, on l'annonce, je vous garantis, là, Q1 2021, c'est fait. Ou un truc dans le genre. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont dit c'est faisable. Ça, on va y arriver et ça va marcher avec la dispo, la fiabilité que Kafka peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui volent là-dedans et quand on va les voir atterrir, ça risque d'être assez sale.
Moi, je pense que ça va être assez comique parce que rien qu'écrire les frameworks de test de système distribué, déjà, il y en a pour un moment.
Surtout s'ils partent à implémenter déjà leur propre raft. Qui, bon, il paraît-il plus simple que d'autres algos, mais vient aussi avec son lot de problèmes.
Bah, typiquement, je ne connais pas une seule implémentation de Raft qui mérite
Bah, apparemment, eux non plus, ils ont décidé de le réécrire après avoir testé le TCD. Je pense que c'est une réponse en soi. Enfin, bon, moi, ce qui me bute là-dedans, c'est que les mecs t'expliquent que il faut qu'on vire ZK parce que ZK nous empêche de faire aussi bien que Pulsar. Et là, un Pulsar, c'est ZK dedans. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, bref, moi, je comprends pas. Nous sommes dans l'irrationnel, dans le hashtag les gens, et nous leur souhaitons bien du courage.
Puis tout ça, c'est pas récent. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait 2-3 ans que ça traîne. T'as des issues et TCD sur Confluence, ça traîne quoi.
Bon, bref, Team ZK. Voir.
Team ZK, et Apache Curator.
Et Apache Curator. Non, mais en fait, moi je pense que pour finir, on peut dire à ceux qui pensent pouvoir supprimer rapidement leur ZK, allez bien voir l'issue, c'est Malbar. Et intéressez-vous au changelog de ZK qui, pour le coup, est vraiment en train d'essayer de simplifier la vie des gens qui gèrent, notamment avec un pattern qu'on appelle les observeurs. Je pense qu'on fera des news spécifiquement là-dessus. Là-dessus, je vous propose de se dire qu'à partir du moment où on va tout faire fonctionner sur ETCD avec un garbage collector désastreux, il va nous falloir des grosses machines pour faire tourner ça. Et c'est pour ça que je vous propose pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire tout tourner sur un mainframe. Qui est le con qui a été posté ce lien?
C'est moi. Je vois une idée comme ça, quelqu'un qui se dit bon, là j'ai rien à faire, j'ai 20 000 balles à claquer, j'ai besoin d'un mainframe chez moi. Le truc fait peut-être quoi, 700, 800 kilos? Déjà rien que le balader, c'est un sujet.
Ils annoncent 800 kilos et ils annoncent des frais de port en 3500 balles en Europe jusqu'à 8 000 $ aux US.
Je me rappelle donc, plus de l'article,
tout,
mais le mec
tout le pitch de l'article, c'est il faut acheter son propre mainframe chez soi pour se rendre compte du truc et faire des études dessus. Et une fois que tu as reçu ce machin et que tu l'as mis au milieu de ton salon et que tu l'as démarré, tu vas mieux. Et pour le troll, le mec est committer gain tout quand même.
Non, mais il y a tellement d'implications pour faire tourner ce truc, c'est juste incroyable. Donc, déjà…
Il y a page et demie qui parle du cordon d'alimentation quand même.
Non, ça il dit que c'est la partie simple parce que le machin en fait est
capable de pouvoir
se connecter à peu près n'importe quoi. Tant que tu lui files 16 ampères et entre 200 et 600 volts. Genre, n'importe quoi, t'as ton générateur à côté, aucun problème.
Faut pas brancher ton gaufrier en même temps quand même.
C'est-à-dire que t'as plus de chances de faire tourner un mainframe dans une ère Mad Maxienne parce que entre 200 et 600 volts, c'est large.
Ouais. Non, puis après, il se dit, bon, bah, maintenant que j'ai mon mainframe, j'ai peut-être envie d'aller prendre quelques accessoires. Donc, par exemple, pourquoi pas un lecteur de bande magnétique, tant qu'à faire. Parce que ça marche aux bandes magnétiques, ces trucs-là. Mais ça a l'air génial. Et dans les commentaires, il y a des gens qui étaient là tout de suite. Bon, bah, tu nous le mets en timeshare, le truc, quand il est branché.
Parce que, et bon. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une communauté, il y a des comptes Twitter que tu peux follow, il y a des gens qui sont au taquet dessus.
Non, en fait, c'est...
Non, mais attends, hein. C'est encore hyper employé, le mainframe.
Clairement.
Là, c'est le rétro gaming des data centers en fait.
Non, attends, c'est pas le rétro gaming. Hein. La dernière version de ZOS, ils l'ont sorti l'année dernière. Et ils vont faire plein de fric avec. Hein. Enfin, il faut pas croire. Hein. Mainframe, c'est un marché qui est florissant. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est
qu'il s'est
livré un chez lui. Ouais, le modèle de vente est quand même génial. Vous connaissez tous le modèle de vente du mainframe ou pas?
Parce que, vas-y, explique-le, mais c'est intéressant parce que du coup, le fait d'avoir ce modèle de vente fait que tu peux recevoir un mainframe briqué à la maison. Genre, il ne marche pas. Tu as payé 20 000 balles, tu as un truc de 700 kilos dans ton salon et il est briqué.
Il est bien, ça fait un beau
qu'est-ce que ça veut dire briqué? C'est qu'en fait, chez IBM, on leur a dit, mais c'est quoi votre modèle de facturation sur le mainframe? La location ou la vente? Ben, les mecs IBM ont dit les deux. Ah bon, le client choisit? Non. Les mecs achètent leur mainframe, ensuite ils nous louent le droit de l'utiliser. Ah ouais, brillant.
Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un peu le même modèle que les cartes graphiques là-dessus. C'est-à-dire que le mainframe arrive chargé à bloc de matériel. Par contre, ta licence, alors la licence, elle vient par des éléments extérieurs qui est généralement un petit laptop ou un truc comme ça qui est collé au mainframe. Et ta licence va dire à quelle partie, quelle capacité du mainframe tu as accès. Et si tu veux, tu peux payer pour avoir une licence plus grande. Et là, tu peux utiliser une plus grande partie du matos qui est dedans. Parce que si à chaque fois que tu dois, t'as besoin de plus de capa, t'es obligé de te faire livrer plus d'éléments, bah c'est désagréable. Donc autant tout livrer dedans. Et en fait, il y a un paquet de cartes graphiques qui fonctionne comme ça. Et ça se gère au niveau du driver, des licences, etc.
Ou ta bagnole.
Dire, c'est tel ou tel modèle.
Ou un tracteur.
Ta Tesla.
Un tracteur aussi.
Il y a une prise Diag sur le mainframe. Une prise Diag. Il faut être revendeur agréé pour avoir la valise de... Ah bah oui, littéralement. Bon. On vous recommande la lecture de l'article parce qu'elle est très enrichissante pour ceux qui sont très loin de l'informatique de grands groupes et de ce à quoi ça peut ressembler. Vous allez voir, vos problématiques de version de Nuxt.js deviennent d'un seul coup des choses à mettre en perspective. Donc, on vous recommande la lecture de cet article qu'on trouve passionnant. Et on vous recommande également la lecture de l'article suivant qui est une nouvelle fonctionnalité de chez Clever Cloud, la capacité à rediriger directement du TCP. Qui se laisse ou qui se lance?
Qui l'a fait?
Aucun des gens qui sont ici.
Oh, c'est triste. Bon, allez, j'ai écrit le blog, alors je me lance. En plus, j'ai fait un talk avec Hubert Sablonnière sur le sujet, au GDG virtuel, ou GDG Lead, je ne sais plus, qui est sur YouTube. Nous filerons le lien. Traditionnellement, chez Clever, on pouvait faire que du HTTP. Et l'avantage du HTTP, c'est quand tu as une requête HTTP qui arrive sur tes machines, sur tes frontaux, sur ton reverse proxy, dans une requête HTTP, il y a de la metadata, par exemple des headers. Et dans le header, il y a le nom de domaine. Alors, c'est intéressant parce que tu sais qu'ils vont tous sur le même port, mais par contre, le nom de domaine, c'est bidule. Donc, bidule, ça va être la VM truc. Pas de souci, il y a toutes les métadonnées qu'il faut pour rediriger la requête quand elle arrive sur mon frontal sur la VM qui est chez nous. Quand tu passes en TCP, il n'y a plus de métadonnées. TCP, c'est un gros paquet binaire, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, tu n'as pas le nom de domaine pour te dire le nom de domaine, bon, bah, c'est ce client-là, c'est cette VM-là. Du coup, tu es obligé d'avoir un port différent à chaque fois, donc un port par application, donc par VM. Et ça, on le faisait à la main depuis quelques années. Et ça y est, c'est enfin disponible via Clever Tools et via l'API. Donc, vous pouvez faire un Clever API, enfin Clever TCP redire, add. En président de namespace, donc le namespace par exemple c'est cleverart.io ou par exemple default qui est le nom de domaine que vous avez redirigé chez nous. Et on vous donnera un numéro de port et du coup vous pourrez faire du TCP directement via ce port.
Et bien évidemment, vous pouvez négocier avec nous certains numéros de port particuliers. Moi je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que traditionnellement le plateforme as a service ne peut que répondre à du web et en fait là ça permet de répondre à internet. Donc, si vous voulez parler SMTP, si vous voulez parler un protocole chelou bancaire, si vous voulez parler SQL, si vous voulez parler…
MQTT.
En fait, on va vous supporter la totalité des protocoles et ça va vous permettre d'utiliser les bienfaits d'un plateforme as a service, pas nécessairement pour faire du web, mais réellement adressé Internet.
Avec un serveur LDAP, comme il se doit.
Un serveur DNS.
Ou un chat Telnet made in Hubert Sablonnière.
Voilà, vous avez une démo. Si votre framework web ne supporte pas l'upgrade de HTTP vers WebSocket.
Ou pour faire du DNS ou du SMTP ou de l'IRC, vous pouvez fournir également du XMPP. Bref, tous les protocoles sont ouverts et vous pouvez écrire vos propres protocoles et par exemple les parser à coup de NOM, hein, puisque c'est une possibilité. Non, mais au-delà de ça, franchement, c'est une très belle fonctionnalité. Je suis fier qu'on l'ait. Je vous enjoins à jouer avec parce que c'est vraiment un truc qui est très très cool. Et j'aime bien cette fonctionnalité, je suis content qu'on ait. Lien suivant.
Allez.
Elastic a release la 7.7. Et dans la 7.7, ils ont. Donc on ne va pas nécessairement parler de toute la release Elastic 7.7. Elastic, que je vous rappelle, vous pouvez utiliser en totalité sur la plateforme Clever Cloud. C'était mon moment sage, ça. Non, par contre, ils ont réalisé une nouvelle app dedans qui s'appelle Workplace. Et je trouvais ça très intéressant. Qui veut nous parler de Workplace?
Moi, je peux. Donc, Workplace, c'est toute une nouvelle appli, en fait, qui va nous permettre de se connecter à différents services comme GitHub, SharePoint, Confluence, Google Drive, etc. Et en fait, Elastic va aller parcourir tous ces services sur lesquels vous avez un compte et du coup, va indexer toutes ces informations-là. Et vous, en fait, vous allez pouvoir query toute cette partie-là. Donc, du coup, par exemple, pour GitHub, on peut imaginer taper une requête comme récupère-moi les issues de la semaine dernière et puis hop, on récupère toutes les issues en une requête. Et du coup, on peut coupler ça et faire de l'agrégation avec d'autres systèmes comme SharePoint, etc. On peut imaginer plein de solutions business là-dessus. Pour des sales, des choses comme ça.
J'ai hâte qu'on puisse brancher GitLab dessus. Ouais.
C'est pas encore le cas.
Ouais. La recherche GitLab. Philippe Charrière, si tu nous entends.
Voilà.
Entends-nous.
Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir Elastic débarquer dans un produit hyper consumer, quoi.
Ben, moi, je pensais qu'Algolia irait avant, mais Algolia n'y a pas été. Donc, Elastic les a cramés.
Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Elastic, déjà, c'était le lien un peu avec les moldus. Quoi. C'est-à-dire que l'idée des dashboards Kibana, il y avait ce côté, on va vous montrer les données. Et c'est quand même comme ça que le Kibana Effect, c'est quand même une grosse explication de la croissance d'Elastic et de son adoption. C'est que c'était facile à vendre. Tu vois, c'est le machin qui va te produire le dashboard qui fait que la donnée est compréhensible. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très malin. Et je trouve que c'est intéressant de les voir pousser pour aller sur un produit qui, pour le coup, est complètement dédié à du user non tech dans l'entreprise. Et je trouve que c'est très intéressant. Et c'était une surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai vraiment hâte de le tester.
C'est vrai que c'est assez orthogonal à leurs habitudes. Mais c'est intéressant. Du coup, ils continuent à creuser sur le search et pas sur… tu vois, tout le monde les attend sur la DB. Je pense qu'ils sont toujours tranquillement planqués en train d'attendre que la guerre de la DB soit terminée. Visiblement, Cachebase vient de relever, donc elle n'est pas terminée. Donc, je pense qu'ils vont continuer à creuser le search et puis un jour, ils diront « Eh, en fait, maintenant…
» Je n'ai pas l'impression qu'ils attendent. Hein. Pour moi, les mecs, ils font un travail de SAP tout à fait régulier et ils gagnent des parts de marché tranquillement, sans hurler. Et par contre, ils ont plein d'applications pour montrer, tu vois, le SIEM, tout ce qu'ils ont fait sur l'Ops… aussi, où ça a permis de démontrer la puissance de ce truc-là. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que ça avance vraiment bien.
Verticaliser les index inversés en fonction des use cases.
Non, puis le côté intégration au service, genre Office 365, GitHub, etc. Genre, en quelques clics, tu vas avoir tes données de ta boîte qui sont partout et tu vas les rassembler. C'est hyper séduisant, en fait.
C'est un vrai besoin. C'est-à-dire que tout le monde te disait « Eh, on va mettre… » C'est le moment où je reparle de moi. Et avant Cachebase, j'ai bossé dans une boîte. J'étais CMS d'entreprise. Et CMS d'entreprise, c'était on va mettre un CMS d'entreprise et vous allez tout mettre dedans. Comme ça, quand vous ferez une recherche, eh bien, tout sera dedans.
C'est le moment où tout le monde se rend compte qu'en fait, Laurent Dauguin, il est vieux et qu'en fait, il se teint la barbe parce qu'il a plein de poils blancs.
Je suis choqué, c'est vrai. Anyway. Tout le monde sait que quand on vous explique qu'il va y avoir un outil pour les gouverner tous, ça va être un échec, en particulier sur l'agrégation de contenu. Et tu sais très bien que tu auras du contenu qui partira partout. Et moi, j'aime bien l'approche de la signe qui consiste à dire « Bon, OK, nous, on va agréger tout ça, du coup. » Parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, il y a un truc qui s'appelle quand même « Workplace Search ». Tu sais très bien que tu auras du contenu à plusieurs endroits et pouvoir le retrouver via une seule interface. Ça va être un peu le Google… de la boîte, c'est cool. Et à une époque, Google faisait ça. Tu avais le Google Search Appliance, tu pouvais larguer un rack Google chez toi et indexer un peu tous les contenus de ta boîte. Et ça coûtait beaucoup trop cher et puis tu n'avais pas forcément envie de mettre un rack chez toi. Du coup, là, ce que propose Elastic, c'est vraiment top pour ça. Et ça correspond à une vraie réalité de grosses entreprises.
Tu disais qu'à
le Google de l'intranet.
Le Google de l'intranet. Non, mais écoute, je pense que c'est un bon positionnement. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte qu'on puisse le déployer en 3 clics chez Clever Cloud. Pour que tous nos utilisateurs puissent l'utiliser et que ce soit cool.
Je crois qu'on est en 7.6 pour l'instant, mais soon.
La virtualisation, là, un article qui en fait n'est pas tout jeune, dont on vous remet le lien, c'est un article assez intéressant sur la virtualisation. C'est un article qui vous explique le rapport que vous avez entre les VT instructions, KVM, QEMU, ce qui se passe, et c'est un article qui est poussé, qui est intéressant. Je crois que c'est toi, Géal, qui l'a ajouté.
Non, je crois que c'est toi qui l'as posté.
Ouais, c'est moi qui l'ai posté. Je l'ai
pas lu, mais…
Si, je l'ai lu. en fait, moi, je le trouve intéressant parce qu'en fait, ça fait un moment que moi, ce que je pousse comme idée, c'est de dire que la virtualisation, quand les gens parlent de machine virtuelle, ils n'ont rien compris. En fait, on s'est arrêté à un sous-ensemble épiphénomène des VT instructions. Les VT instructions, ça ne permet pas de créer des machines virtuelles. Les VT instructions, ça permet de… C'est un framework, en fait, pour faire des enclaves sécurisées d'exécution dans le CPU. Et c'est vraiment comme ça, à mon sens, qu'il faut comprendre les VT instructions et les différents ajouts. Et c'est ce qu'on fait chez Clever avec le Function as a Service, où en fait, on démarre une machine par exécution de Function as a Service. C'est un produit sur lequel j'ai déjà donné un talk et c'est un produit sur lequel on bosse à fond en ce moment, n'est-ce pas, pour le coup, Canard et Géal qui bossent à fond dessus.
Géal, en fait,
Je propose qu'on mette en place un jingle croisade quand on parle de ça.
Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je trouve que l'article te permet de comprendre pourquoi les VT instructions, c'est une vision beaucoup plus large que juste se dire on va créer des machines virtuelles. C'est vraiment une vision de sécurisation, d'enclave d'exécution au sein du CPU qui est un concept qui est vachement intéressant et qui aujourd'hui, quelque part, retrouve ses lettres de noblesse un peu avec l'échec sécuritaire absolu que sont les containers, où tous les gens qui cherchent des solutions sécurisées en fait se retournent vers ce truc-là en disant bah en fait c'est des instructions de machine virtuelle qu'il nous faut en fait.
Ils ont encore le problème de l'approche on veut faire tourner un OS sur une machine virtuelle. C'est justement le problème de la virtualisation dès le début, c'était j'ai une machine et je veux pouvoir la faire tourner dans un package bien isolé. Mais par exemple, ça va être un Windows ou un Linux stock installé comme ça et il a l'impression qu'il est sur du vrai hardware. On a finalement décidé à un moment que les hyperviseurs qui émulaient complètement le hardware, les lecteurs disquettes, les choses comme ça, c'était pas une bonne idée, notamment si on fait du serveur. Et donc, on a commencé à avoir des OS guest qui savaient qu'ils tournaient sur un hyperviseur. Donc, on commence à avoir
des choses. Juste au fond, je te coupe parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est la base de la légende de l'EVM CLAN, c'est littéralement ce que tu viens de dire, c'est quand on émulait tout, qu'on installait VirtualBox et que ça mettait 45 secondes à démarrer. Et les gens sont encore là-dedans.
Voilà.
En fait, tout est lent, sauf le CPU dans cette opération-là. Parce qu'en fait, tu émules tous les autres périphériques et le CPU se comporte très bien, mais tu émules tout le reste des périphériques. Et comme tu émules tout le reste des périphériques, dont les entrées-sorties, bah, en fait, comme les entrées-sorties, c'est toujours le bottleneck de perf, bah, c'est là que tu as ton problème de perf.
C'est pire que ça, en fait. Si tu es sur de la virtualisation complète et que le guest ne sait pas qu'il est virtualisé, à chaque accès matériel ou matériel émulé, en fait, il va devoir s'arrêter, rendre la main à l'hyperviseur et l'hyperviseur va dire bon, bah, tiens, toi, tu es en train de lire à cet endroit-là pour la carte réseau, bah, je te mets la donnée dans ta plage mémoire et voilà. Et en fait, quand on a un OS qui sait qu'il est virtualisé, il y a un channel à grande bande passante entre les deux où ils échangent directement avec un petit protocole de communication pour dire bon, moi, je veux lire ça sur le réseau, ça sur le fichier, etc. Et ça communique dans les deux sens très rapidement. Mais sinon, effectivement, c'est ultra lent. Et le problème qu'on a encore avec les approches conteneurs, etc., c'est bah oui, mais on veut quand même lancer un kernel par-dessus. Et on est déjà on a déjà le Lost qui a son kernel, qui a son hyperviseur, qui a tout. Et on veut encore faire tourner par conteneur un kernel en plus. Alors, il y a eu énormément de travail pour rendre le boot des VM rapide, pour rendre le boot de Linux rapide. Mais on est en train de faire tourner un système entier à chaque fois dans chaque VM. Alors qu'au final, les instructions VTX, ça permet de dire au processeur, crée-moi une VM qui a un contexte de la mémoire et de trois autres trucs. Crée-moi un ou plusieurs CPU. Un CPU, c'est un set de données qui dit je supporte tel ou tel type d'instruction, par exemple les instructions vectorielles pour du SIMD, des choses comme ça. Je fais du 32 ou 64 bits. Voilà, on choisit vraiment à la carte les options qu'on veut. On charge de la donnée en mémoire. On sait quelles données on partage avec la machine et on dit au CPU maintenant tu démarres. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'émuler du hardware, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. On peut juste exécuter du code directement. Et ça, c'est un peu tout ce qu'on fait dans le FAS, c'est se dire mais pourquoi s'embêter à avoir un kernel là-dedans ? Moi, je compile le code, je le charge et puis je le démarre. Voilà.
Bref, c'est un article. On vous recommande d'aller lire cet article-là si vous avez envie de comprendre le long level là-dessus. Parce que il est plutôt bien écrit et ça va vous permettre de comprendre aussi ce qu'on est en train de travailler sur plein de phases où on est en train de réécrire plein de systèmes de virtualisation.
Je suis pas du tout bas niveau et ça m'a pas semblé incompréhensible. C'était même plutôt agréable à lire. Donc allez-y.
Oui, c'est ça. Et puis il explique aussi quand même la relation entre QEMU, KVM et les VT instructions. C'est intéressant. Ouais. Et les extensions et tout. Enfin bref, intéressant.
Bon, pour un prochain épisode, on vous trouvera un article pour vous expliquer ce que sont que les VMM, etc. Petit à petit, on le fera. Et peut-être un moment, on fera des épisodes spéciaux là-dessus. Mais c'est vraiment pertinent d'aller comprendre ça parce qu'en fait, tout le cloud repose.
Croisade.
Rendering with Notepad. Bizarrement, encore un lien, Geoffroy Coupry.
Celui-là, c'est mon préféré, vraiment, de la liste. C'est quelqu'un qui s'était dit « Bon, j'ai envie d'afficher des choses dans Notepad. qui voulait faire un jeu, où voulait faire du rendering dans Notepad. Alors, c'est un peu comme ce qu'on connaît avec Libkaka, où on peut prendre une vidéo et en faire un flux de texte. Ça marche, ça existe depuis des années, mais là, aller faire ça directement dans Notepad, c'est un peu challenge. Donc, ce que le développeur a fait, c'est que pour commencer, il s'est dit, tiens, mais en fait, c'est une Notepad, c'est une application Windows, je peux lui envoyer des événements. En fait, on peut communiquer entre applications Windows par événement. C'est-à-dire, quand on tape une clé au clavier, c'est un événement qui est envoyé. Donc, il s'est dit, bah, je vais émuler ça. Je vais faire mon petit programme qui va envoyer tous les caractères les uns après les autres, qui, à chaque frame, va vouloir tout effacer directement, puis après tout réécrire. Et donc, ça marche. Et ça, je ne sais plus, il avait combien ?
Il a fait du ray tracing dans Notepad. Le Gus en question fait du ray tracing dans Notepad.
Ouais, ben alors, attends, avant ça, parce que je crois qu'il était arrivé à 30 Hz d'affichage, donc ce qui est, faut bien n'est pas top, quoi. Et il s'est dit, mais je pourrais peut-être aller plus loin. Et alors, il y a un truc qui est assez connu dans le jeu vidéo, c'est tiens, je veux savoir ce qui se passe dans le jeu, ou je veux modifier des choses, ou je veux faire mon debug. Eh ben, on va aller chercher des bouts de mémoire directement dans le process et on va parser les structures et on va aller regarder la mémoire directement.
Ben, c'est ça qui m'a le plus amusé, c'est le mapping memory où du coup, il vient injecter des trucs en direct parce que ça va plus vite pour changer le comportement. C'est ça.
En fait, il trouve le bout de buffer en gros où sont stockées les données pour, ce qui va être, pour le texte qui va être affiché.
Dans le pad.
Voilà. Et du coup, ça, il le modifie tout d'un coup, tout le buffer, puis pouf, il lance le refresh. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et donc après ça, il se dit, bon, bah, maintenant j'en suis là, effectivement, je peux faire du ray tracing dans Notepad, on n'est plus à ça près.
Le tout en Rust.
Bah, pourquoi pas, hein. Pas se priver non plus.
Sous prétexte de cette grosse connerie, l'article est quand même très intéressant pour du low level. Donc voilà, c'était le lien What the fuck de GL numéro 2. Donc mainframe, donc le but c'est de faire du ray tracing dans Notepad sur du mainframe d'après GL. Ok, il y a une Project Loom proposal dans l'OpenJDK. Laurent, je suppose.
Écoute,
les Fiber and Continuation.
Là, j'y suis pour rien.
Ça, c'est moi qui l'ai posté aussi. Je peux laisser Canard en parler sinon, hein, y a pas de problème.
Je pense qu'on va te laisser faire, Geoffroy. Tu m'as l'air bien parti.
En gros, le Loom, c'est d'avoir des fibers, des green threads dans Java. Java, c'est un langage qui était sympa pour un truc, c'est qu'il donnait accès aux threads.
Dans la JVM.
Dans la JVM, oui, pardon.
Donc, tous les...
Oui.
C'est au-dessus.
Donc, en fait, JVM... pour l'instant, toutes les volontés d'émulation de green thread dans la JVM sont des bricolages plus ou moins spécieux.
Voilà. C'est un peu méchant. Voilà, moi, c'est ça qui m'avait choqué en le lisant, c'est qu'il ne parle pas de Quasar, mais effectivement, parce que Quasar, c'est une lib au-dessus qui essaie de faire sa tambouille au-dessus avec ce qui est dispo maintenant. Et le projet Loom, c'est vraiment, on va tuner la JVM pour rendre ça disponible avec un accès kernel plus simple. Et,
ce qu'on peut expliquer rapidement les green threads quand même, parce que…
Oui, explique les green threads.
Les coroutines, tout ça.
Bah, vas-y. Bon, on a les threads au niveau OS. C'est un moyen de définir plusieurs bouts de code qui vont s'exécuter en même temps ou en concurrence sur un processeur. Donc, on va alterner, etc. Et la JVM était sympa parce qu'elle permettait un accès facile aux threads de l'OS et donc d'avoir des bouts de code qui s'exécutent dans plusieurs fils en même temps les uns avec les autres. Et en fait, ils ont commencé à se faire tailler des croupières par d'autres langages qui, par exemple, du Go, des choses comme ça, qui pouvaient
émuler... Erlang.
Erlang, oui, on va dire ça aussi. Qui pouvaient émuler des threads, mais sans demander à l'OS. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et ça consomme beaucoup moins de mémoire. Parce que chaque thread niveau OS va avoir son contexte. Passer d'un thread à un autre, ça demande à l'OS de gérer qui s'exécute à quel moment, etc. Alors qu'avec les green threads, c'est l'application toute seule côté userland qui décide, ben, toi tu démarres, toi tu t'arrêtes, toi tu trépasses par le signal, voilà. Donc c'est bien de voir Java arriver à ça, notamment parce que ces derniers temps, il y avait aussi beaucoup de frameworks qui étaient en train de faire de l'asynchronous IO. Donc, c'est d'utiliser d'autres API de l'OS pour dire qu'on veut recevoir des événements sur plein de sockets en même temps. Et il y a pas mal de bricolages qui existent en Java qui sont plus ou moins efficaces, en Scala aussi. Et l'idée de mettre...
Notamment tous ces grands frameworks connus, notamment si on prend Netty, il faut quand même rappeler que Netty, c'est rapide parce qu'un bout, c'est du binaire.
C'est des trucs basés sur IPOL et IOURing.
C'est ça. En fait, le bidule te load du binaire, fait du JNA des familles, te load un morceau de binaire dans la JVM et fait sa tambouille. Et il a un fallback full Java si jamais il se ramasse les pieds dans le tapis. Et quand tu tombes sur le fallback full Java quand tu se ramasse les pieds dans le tapis, d'un seul coup, ta perf fait boum. Mais c'est violent. Et je me souviens qu'on était tombé nous sur ces bugs-là, sur des drivers Cassandra. Et en fait, tout allait bien. Et on déploie un jour. Et en fait, les versions d'IPOL et machin ne correspondaient plus avec l'OS. Et la explosion, le truc, naturellement migre en full Java. Et là, performance divisée par 6 sans discussion préalable. Et avant de comprendre que c'était un problème de pommes non compatibles entre eux dans le build de Maven, Tagada, Soin, enfin, le genre de cascading de bordel qui peuvent arriver, ça n'a pas été sympa. Bref, c'était. Ces libres, en fait, toutes ces libres de forte capacité, en fait, elles sont binaires, en fait, dans Java. Mais tu t'en rends pas compte, c'est bien packagé et c'est bien planqué sous le tapis.
Comme AWT.
La Loom Proposal, son objectif, c'est quoi? C'est la prochaine version? C'est dans deux versions? C'est quand?
Pas tout de suite, j'avais vu.
Je sais pas, moi je serais curieux de savoir ce qui va se passer par exemple en Kotlin où ils avaient leur propre télécoroutine pour Quasar ou pour globalement tous les gens qui ont essayé de bricoler. Est-ce qu'ils vont se remapper là-dessus ou pas? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les gens du RxJava ou du ReactiveStream, genre NetInPol, est-ce que ça va être moins bien? Est-ce que ça va être remappé ou pas?
S'il y a une constante sur tout ce qui est implème de coroutine, d'AsyncIO, de green threading, etc., c'est qu'il n'y en a pas une qui est compatible avec quoi que ce soit d'autre. Chez Rust, là, on en sort, on est encore là-dedans, c'est encore douloureux, et il y a un paquet d'autres langages où ça va être douloureux comme ça. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur la JVM, mais très probablement, ce sera plus sympa à faire en Java au début.
Et dans Go 2, si ma mémoire est bonne, ils sont en train de s'engueuler sur le sujet aussi. Ok. Les green threads qui arrivent dans Java, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Et tant qu'on parle de concurrence, nouveau test Jepsen. Donc rapidement, Laurent, peut-être, qui veut nous expliquer ce qu'est Jepsen, peut-être? Laurent?
Rapidement, Jepsen, c'est un système de test de système distribué globalement, fait par un monsieur, à l'origine par un monsieur qui s'appelle Afir, qui a été rejoint par plein d'autres gens très cool. Donc c'est Kyle Kingsbury, c'est son site Call Me Maybe. Et Jepsen, c'est le nom de la suite de tests. Et alors sur Call Me Maybe, vous pouvez voir plein de systèmes distribués qui ont été mis à l'épreuve de cette suite de tests et qui ont réussi plus ou moins brillamment à chaque fois. Ils ne sont pas forcément... les systèmes distribués, c'est compliqué. Quand ça ne marche pas...
Globalement, tout système distribué finit par s'effondrer face à Jepsen. C'est normal.
À part Zookeeper, où ils se sont dit c'est un échec personnel, tout s'effondre. Le problème n'est pas tant que ça s'effondre, parce que le Jepsen simule des conditions horribles, des split brains ultra vénères. Enfin, c'est le but du jeu, c'est d'exploser ton. C'est du chaos engineering ciblé sur ton système distribué. Et tu regardes ce qui se passe et si ça tient ou pas, si c'est cohérent ou pas. Ils sont extrêmement tolérants, voire même plutôt contents quand le comportement, quand il y a une panne, est cohérent avec ce qui a été écrit dans la doc ou ce qui a été écrit, par exemple, dans les supports marketing. Et donc
clair, quand ça merde, si on vous a dit qu'une transaction était passée, si on la retrouve pas après, là ils sont pas contents. Par contre, si vous aviez jamais dit que vous assuriez la transaction, why not? On peut en discuter.
Quand vous dites dans cette circonstance là, c'est full acide, ou quand vous dites de manière générale, c'est full acide, ce qui est littéralement ce qui s'est passé cette fois-ci, à un moment donné sur la page, tu as une page Mongo. Mongo est un peu trop.
Ouais, donc voilà, c'est un nouveau post à propos de Mongo. Donc, MongoDB a été de nouveau testé par les équipes Jepsen.
Alors, qu'est-ce qui a trigué ce test? Bisous à l'ami Maxime Beunier qui a dû s'en prendre plein la gueule. J'espère qu'ils ont été sympas avec toi. Parce que c'est un tweet de Maxime où il dit si, regardons, passe Jepsen. Et il a linké la page Jepsen. Effectivement, il passe Jepsen. Mais il y a des. On n'est pas sur le mensonge par omission parce que c'est dans les footnotes, tu vois. Mais on n'est pas loin. Du coup, ça a un peu énervé les gens de Jepsen.
Genre, les gens de Jepsen détestent être pris pour un label marketing. C'est un truc très important à dire. Il ne faut pas dire si on passe les tests Jepsen. Les tests Jepsen ne sont pas un test unitaire. C'est un framework de test que vous devez tweaker. Enfin, vous ne pondez pas des tests Jepsen en 2-2.
C'est long, c'est
compliqué de faire une étude Jepsen et ce n'est pas binaire comme tout système distribué, effectivement. Et donc, n'utilisez jamais Jepsen comme discours marketing. Vous pouvez dire, lisez l'étude faite autour des tests Jepsen de notre plateforme et déduisez-en notre comportement et le raccord par rapport à la doc qu'on a, mais dites jamais on est bon, on passe les tests Jepsen, parce que c'est mal de dire ça.
Bon, c'est mal. Bon, là, en l'occurrence, c'est le manque de détails. En fait, les choix, ce qui, là, ils ont allumé Mongo sur les choix par défaut qui sont faits dans le SDK qui ne te permettent pas d'être flaccide, comme ils disent. Avec les choix par défaut. Parce que tu peux choisir les choix de consistency que tu veux sur du read, sur du write en tant que dev. Et ce qui est normal, la plupart des solutions de SQL maintenant permettent de faire ça. Et là où ils ont allumé Mongo, clairement, c'est sur le fait que les choix par défaut ne correspondent pas à ce qui est dit sur module.com/jepsen. Donc, il faut fixer la doc, il faut être un peu moins bragué là-dessus. Et ils seront plus contents. Bref. Allez voir Call Me Maybe, il y a plein de choses super intéressantes à apprendre et à lire sur ce site.
Ouais, le truc, c'est que Mongo a déjà un historique en plus avec Jepsen, parce que c'est déjà eux qui avaient généré cette magnifique code qui était on a un nouveau type d'erreur. D'habitude, un système distribué, il va vous perdre de la donnée, il va ne pas supprimer de la donnée que vous vouliez supprimer, il ne va ne pas vous créer de la donnée que vous vouliez créer. Il va ne pas vous modifier de la donnée que vous vouliez modifier. Il
faut préciser,
Mongo avait quand même…
Dans les conditions sous stress, quand on le met sous stress.
Oui, sous stress. Mais Mongo avait quand même déjà inventé un concept qui était Mongo, sous stress, pouvait se mettre à inventer de la donnée. Et ça, j'avoue que dans les premières versions de Mongo sous stress, quand le Mongo se mettait à inventer de la donnée, et en fait, c'était foutu bizarrement parce que comme le parseur, le formateur JSON passait après… La requête que tu recevais, enfin, tu recevais une requête de Mongo qui, de loin, elle avait l'air propre, en fait. Sauf qu'une fois que tu essayais de la décoder, c'était un non-sens absolu. C'était de la donnée, c'était des bouts de bordel mis ensemble et accrochés avec de la ficelle, ça n'avait aucun sens. Et ça, je me souviens que les premiers résultats de test étaient, bah, écoutez, celle-là, on ne l'a pas encore faite comme cas d'échec. La création spontanée de données, c'était assez particulier. La suite, donc allez lire le test de Mongo si vous êtes en 4.26 et que vous avez envie de faire de l'acidité dans Mongo, ça vous donnera les cas d'usage et notamment si vous voulez faire de l'acidité, quand vous faites de l'acidité et qu'il faut en être sûr, vous devez requêter et du coup les conséquences que ça a en termes de performance, hein, parce qu'en fait, allez expliquer à tous les nœuds du cluster.
Surtout sur les transactions, en fait, le changement de document unitaire à la limite, ça passe, c'était vraiment sur la partie transactionnelle, puisqu'évidemment maintenant toutes les bases de SQL supportent les transactions. Et c'est sur le côté transactionnel qu'il faut faire attention.
Lien suivant, Redis Lab annonce la sortie de Redis Vir.
Alors, ce n'est pas la sortie, c'est la dispo GA 1.0. Ça a été annoncé en mi-2019. Et Redis Gears, c'est le serverless made in Redis. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous avez regardé, Geoffroy et Canard.
J'ai regardé rapidement, ça va quand même être vachement orienté autour de leurs recettes, de liste de fonctions déjà dispo qui vont fournir.
Ouais, parce que c'est du C et du Python, ça m'a un peu déprimé.
Alors, moi, j'aimerais quand même pointer un truc, le graphe de Flatten the Curve, on en parle.
Je NSPP.
Voilà.
Mais moi, j'ai trouvé ça cool, c'est très orienté Edge, évidemment, parce que c'est à la mode et pouvoir exécuter ta fonction près de ta donnée, c'est toujours cool. Et du fait que ce soit C et Python, ça a l'air très orienté machine learning et AI aussi. Parce que je trouve assez intéressant. Et aller voir leur use case, ça s'enchaîne bien, ça s'explique bien. On n'est pas dans la grosse architecture de bourrin qu'on peut trouver dans les fonctionnels de service actuels. On est vraiment sur l'exécution de fonctions sur des streams d'event. Dans Redis, c'est vraiment pas mal.
Enfin, moi, je fais la transition avec ton architecture de bourrin. Le blog suivant, c'est What a typical 100 serverless architecture looks like AWS.
C'est aussi ma faute, celui-là. En fait, j'ai été surpris quand tu vas voir le, quand vous allez voir l'article, il y a un schéma. Alors le schéma, c'est on dirait une archi de ouf, tu vois, on dirait un truc massivement distribué, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de services et tout. En fait, non, fondamentalement, c'est un truc qui fait pas énormément de choses, mais comme c'est découpé de façon unitaire avec plein de fonctions, avec plein de services que te fournit Amazon, ça a l'air gigantesque. Alors les mecs sont très clairs dès le début. Si vous voulez faire du serverless, on a testé plein de choses, nous on a choisi Amazon et ce qu'on conseille quand vous faites du serverless, c'est de choisir un truc et de s'y tenir. C'est plus simple, c'est plus intégré, mais c'est loqué. Les mecs, on saute à deux pieds joints dedans. Et à partir du moment où tu es sauté à deux pieds joints dedans, à la limite, pourquoi pas, tu vois, l'article explique vachement bien les différentes briques qui sont mises à disposition sur ce schéma qui fait un peu peur. Et au final, c'est assez digeste. Par contre, il ne montre pas la structure de coût et il ne montre pas la quantité de YAML qui va avec. Moi, c'est ça qui m'a gêné. L'article. Sinon, ça explique assez bien tout ce qui se passe et toutes les petites briques. Moi, ça me semble être un monstre de complexité quand tu veux faire un ou deux trucs, mais qui sont simples au premier abord. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est le scale to zero que propose Amazon sur ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est intéressant.
En fait, leur truc a l'air plutôt bien découplé. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont des services, par exemple, pour gérer l'identité. C'est dans la gateway, c'est à cause de la gateway, et puis c'est tout. Ils ont quelque chose qui gère l'email. Pareil, c'est séparé. Ils parlent même des step functions qui sont moyens de faire des state machines avec des fonctions comme ça. C'est, ouais. Je trouve ça intéressant. En fait, tout est basé sur principalement de l'envoi de messages. Donc, bon, sur Amazon, ça va être du SQS ou des choses comme ça. Selon, ils ne parlent pas effectivement, tu as le coût, mais les effets de seuil que tu peux avoir, par contre, qui sont voilà, le piège que tu as là-dedans. C'est-à-dire que tu envoies plein d'événements dans tous les sens, d'un endroit à un autre, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que ah, mais là, en fait, il y a de la bande passante. Elle m'a rien coûté jusqu'à la XIM requête et puis tout d'un coup, elle commence à coûter quelque chose. Et c'est là, en fait, que ça va être intéressant d'architecturer parce qu'il y a des choix vers lesquels Amazon te pousse et ça marche bien jusqu'à un point.
Ouais, c'est ça. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Parce que sinon, effectivement, le blog, tu décris ça de manière assez élégante et c'est assez intéressant. Même si ça fait peur. Et du coup, on n'a pas tous les éléments.
Le lien suivant, je crois que c'est de ma faute. Google s'est encore fait tacler par les autorités autrichiennes ce coup-ci pour se faire accuser de pister illégalement les utilisateurs Android en Europe. C'est la je ne sais combienième fois que Google se fait attraper à même si tu lui as dit 14 fois non, je n'ai pas envie que tu me suives à la trace. En fait, ils te chopent et ils continuent à savoir où tu es. J'aimerais savoir, en fait, à quel moment les autorités vont dire à Google, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de gagner de l'argent tant que vous ne mettez pas en conformité avec la loi. Je trouve ça absolument aberrant. Cette boîte se comporte comme si la loi n'existait pas. Et ils sont encore, ils sont encore une fois en dehors des clous sur le pistage illégal géolocalisé des utilisateurs. Ce que je trouve génial quand, de l'autre côté, ils jouent les saintes nitouches sur le Covid et le traçage Covid en disant « Ah non, le traçage Covid en utilisant la géolocalisation, non, on est contre. »
En fait, c'est que ce n'est pas les mêmes chez Google. Hein. Il y a des équipes avec des gens très bien qui pensent vraiment à la vie privée chez Google. Ce n'est pas les mêmes du tout, en fait.
Voilà. Il y a des gens là, qui pensent à la vie privée chez Google.
Ce n'est pas ceux qui bossent sur les ads, en fait. Hein.
Ils se sont perdus, les mecs qui pensent à la vie privée chez Google.
Bah, ils se posent des problèmes éthiques.
Non, mais du coup, ils peuvent aller bosser chez Facebook, sinon.
Non, mais c'est les gens qui travaillaient sur Google+. Du coup, il n'y a personne, donc vie privée au top.
Bref, je vous invite à aller lire cet article-là une fois de plus. Et tant qu'on parle de grosses boîtes qui font n'importe quoi, on en est à la 20e faille Zoom cataclysmique. Zoom, en vrai, là, on l'utilise et c'est super pratique. Mais en vrai, il y a des failles toutes les 3000 non, dans ce machin. Enfin... Du coup, ils ont racheté Keybase.
C'est ça. Je pense que le rachat de Keybase va régler tous nos problèmes. Enfin, tous leurs problèmes.
Apparemment, ils ont quand même un plan assez intéressant pour améliorer leur truc. Mais effectivement, enfin, tout d'un coup, tout le monde utilise Zoom. Tout d'un coup, tout le monde cherche des failles de sécu dans Zoom. Tout à coup, tout le monde en trouve. Hein. Moi, ça me fait penser à un tweet que je voyais tout à l'heure qui est sur Twitter, chaque jour, il y a un main caractère et le jeu, c'est de ne pas être le main caractère. parce que voilà. Et là, c'est tombé sur Zoom et effectivement, ils faisaient un travail qui était passable sur la sécurité. Ils sont plutôt bien réveillés.
Moi, j'ai l'impression que c'est souvent le client qui est en cause chez Zoom. En général, c'est une faille dans le client avec une idée de facilité d'utilisation au début, un démon à la con qui écoute un peu tout ce qui traîne.
Fait beaucoup de bruit, c'était ça, ouais. Celle qui pouvait être loguée automatiquement derrière, on n'avait pas spécialement.
Mais la dernière, là, au début du confinement, il y en a eu une autre, c'était ça aussi. C'était une connerie dans le client, mais c'était vraiment une débilité. Ou pareil, tu demandais gentiment au client, il te filait accès au flux webcam. C'est la teuf.
Ils n'avaient pas fait le coup, je crois, du serveur HTTP en localhost ou un truc comme ça. Ça ne veut pas tout ça. Le monde qui fait. Tous ceux qui, à un moment, vont faire tourner une app en local sur ta machine vont avoir l'idée de faire ça et vont se faire trouer, en fait. Principalement les antivirus, d'ailleurs. Hein, c'est leur grand truc.
Si vous avez une idée qui consiste à créer un helper ou un démon, vous savez que vous allez coller dans un coin qui permet de lancer les trucs sur un lien parce que c'est plus simple. Spotify, tu as fait la même cochonnerie aussi à une époque. Et que ça consiste à faire tourner un serveur HTTP sur la bécane de l'utilisateur en se disant « oui, mais ça n'a accès à que… » et que ta boîte grossit et qu'en fait, ton application qui n'avait accès à que se met à avoir accès à plein de trucs et en fait, ton démon te donne en fait une entrée dans ça, sache que c'était une mauvaise idée de base à l'architecture. Ne foutez pas des serveurs HTTP locaux sans le dire à l'utilisateur, à la WarMat qui permettent de contrôler des trucs via RPC, JSON, que tu peux appeler depuis n'importe quelle putain de page web. Je ne vois pas comment le dire mieux. On peut le répéter 20 fois et je pense que
croisade.
Non, mais en vrai, il y a eu le même problème avec Spotify, il y a eu le même problème avec Skype, il y a eu le même problème. Enfin, ils ont tous fait la même connerie, quoi. Arrêtez de coller du serveur HTTP parce qu'après, tu peux t'en servir dans le browser. C'est quand même pas très compliqué à comprendre, quoi.
Mais l'avantage, c'est que maintenant, comme tout le monde ship du Electron, c'est encore plus facile d'aller faire un serveur web local.
Non, mais j'ai vu qu'il y avait un équivalent d'Electron en Deno, donc ça va changer la vie.
On a dit que Deno, c'était la semaine prochaine. Pour conclure ce podcast, j'ai un lien. Je vous ai mis un lien d'une recherche scientifique que j'ai trouvée particulièrement brillante sur les différents langages. Et en fait, c'est une recherche qui vous explique que quel que soit le langage que les gens parlent, tu finis toujours par transmettre à peu près 39 bits secondes d'informations à tes interlocuteurs. Et qu'en fait, les langages qui sont verbeux sont en fait parlés plus vite, les langages qui sont moins verbeux sont en fait parlés plus lentement, et qu'au final, toujours est-il que le langage parlé humain finit toujours à globalement 39 bits secondes de transmission d'informations. Et j'ai trouvé que l'idée de modéliser l'information humaine transmise en bits par seconde était passionnante. Donc, je vous invite à lire cette petite étude. Je sais pas, vous avez eu le temps de la lire, les gars, ou pas du tout ?
Pas du tout. Voilà. Moi, je suis sceptique sur la capacité à exprimer autant d'informations suivant la langue, typiquement allemand versus, ou français versus anglais. Tiens.
Alors, l'anglais, il y a beaucoup de bruit hein, quand même. Hein. Tu perds beaucoup, ouais. Beaucoup de temps quand tu parles anglais.
C'est ça. C'est ce que t'explique l'étude. C'est qu'en fait, ils sont partis de ce constat-là, qui était qu'effectivement, tu avais des langages très verbeux. Et voilà. Et qu'en fait, quand tu prends le langage parlé des gens, et donc ils prennent des sons enregistrés de gens qui parlent et qui font une conversation, au final, quasiment tous les langages humains finissent à 39 bits secondes.
Il y a des exceptions notables ou...
Non, il n'y a pas. C'est pas un topito, hein. C'est une étude sérieuse, quoi. Tu vois, c'est.
T'as dit pratiquement tous les langages humains, moi, je me renseigne.
Oui, j'attends de
mais ils ont une courbe.
J'attends de voir l'espérantiste qui sort de derrière un buisson pour dire oui, mais nous alors.
Je sais pas, peut-être l'espéranto est monté à 56 bits à la seconde et si on parlait tous espéranto, l'humanité irait plus vite et on aurait déjà vaincu le Covid-19. Qui sait ? Ok, petit rituel de fin de podcast. J'ai ici un logo Clever Cloud randomisé. Nous sommes 4. Sur mon écran, ça va faire 1, 2, 3, 4 en division. Celui qui tombe fait sa chanson du moment. Et nous aurons comme jingle de fin la chanson proposée. Nous sommes à 6. 6, ça tombe sur Geoffroy Coupry.
Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé, moi ? Donc moi, je suis très.
Te justifie pas, je crois. Vas-y.
Bah alors, je l'envoie. Je mets sur le chat, Quentin?
Oui, vas-y, balance sur le chat et moi je ferai l'intégration audio.
Vas-y, vas-y.
Que c'est?
Bah c'est pas mal, moi je bosse avec ça, c'est bien pour démarrer, se mettre dans l'ambiance.
Tu nous parles de ce groupe, comment tu l'as trouvé?
Je l'ai trouvé par des recos SoundCloud. SoundCloud a une espèce d'attracteur un peu bizarre sur le TQ. Il y a un moment, il s'est dit, tiens, toi, tu vas aller dans cette direction-là. Mais il n'est pas arrêté, ça s'est super bien passé. Donc, maintenant, il est parti sur des machins japonais, du TQ. Ça me va, ça marche, ça va bien.
Bien, et bien sur ces notes de musique qui passent dans le fond du titre, merci beaucoup à tous de nous avoir retrouvés. Donc vous trouverez Geoffroy sur Twitter avec J'écouteClick ou sur le support Clever. Alexandre Duval, Canard FR sur Twitter ou sur le support Clever. Laurent Doguin sur Twitter, L de Green. On pourrait faire un pseudo L de Green, c'est comme un film de mexicain. Sur le support Clever et moi-même WAIZTE. J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos amis s'il vous a plu, et s'il vous a déplu, envoyez-nous vos ennemis. Bisous, à la prochaine.